On va commencer surtout le but de ce contact, c'est d'étudier ensemble la parole de Dieu et voir dans la Bible l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous sommes en train de traverser, on a commencé la semaine passée dans l'introduction de l'épître de Paul à Timothée. Alors, si vous avez une Bible à côté, vous pouvez toujours suivre avec moi. Et avant de continuer, on va demander la bénédiction du Seigneur. Je vais, le frère Koulibaly, est-ce que tu veux bien nous diriger dans la prière pour commencer? Amen.
Amen.
Amen. Je pense que c'est mieux si chacun met son appareil sur muter l'appareil parce que ça fait trop de bruit autrement. Et là, si vous avez besoin de dire quelque chose, vous pouvez toujours changer ça pour parler. Parce que j'entends des assiettes et des enfants et autre chose. Ça fait une petite distraction, là.
Ah bon, là, je
vais
me déplacer, c'est moi.
Non, mais ça va. Il faut simplement muter ton appareil. Tu peux toujours entendre, mais... Voilà. C'est bien. Alors, je vais faire la lecture. Comme on a débuté la dernière fois dans l'épître de Paul à Timothée, où on lit Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de...
Mais moi, je parle le passage comme je ne serai pas avec vous la dernière fois.
Ok.
Le chapitre 1
Timothée.
D'accord.
Chapitre 1. Et les deux premiers versets pour commencer.
D'accord.
Bien. Alors, c'est écrit Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, c'est évident que Paul écrit cette épître à un homme qui s'appelait Timothée, et c'était quelqu'un que Paul a rencontré lors d'un de ses voyages missionnaires, surtout si nous lisons dans le livre d'Actes. Je vais vous donner le temps de rechercher ce chapitre, Actes chapitre 9. Plutôt Actes chapitre 16, Actes 16. Ici, c'est écrit dans le verset 1, il se rendit ensuite à Derbé et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée. Et c'est intéressant ici, il était dans une famille mixte, parce que c'est écrit fils d'une femme juive, fidèle, et d'un père grec. Ça, c'était une famille, on peut dire, anormale pour le jour, parce que souvent les Juifs ne se mariaient pas en dehors de leur race. Mais ici, c'était une femme juive, et c'est écrit « fidèle ». Je pense que ce mot ne peut signifier autre chose que la mère de Timothée, était aussi croyant, fidèle dans le sens que le Seigneur lui a donné la foi de croire en Jésus-Christ, mais aussi d'un père grec. Alors, tout ce qu'on peut connaître de son père, c'est peut-être qu'il n'était pas croyant. On n'entend pas lire de lui, on ne voit pas lire de lui qu'il était... il n'est pas mentionné surtout ailleurs comme étant un croyant. Mais c'est dans ce voyage qu'il a rencontré Timothée. Et selon ce qui est écrit, il était déjà un disciple. Alors, nous savons, selon ce que Paul a écrit à Timothée, c'est que depuis son enfance, c'était surtout mentionné dans la deuxième épître de Paul à Timothée, que sa mère et sa grand-mère lui ont enseigné les Écritures depuis son enfance. Et c'est par là qu'il a appris l'Évangile. Tu sais que ce n'est pas notre parole qui convertit des âmes, ce n'est pas notre témoignage même qui est à la base de la conversion de nos enfants, mais c'est la parole de Dieu. Alors pour cela, je vous encourage, vous qui avez toujours des enfants à la maison, que vous prenez le temps avec eux de faire la lecture surtout de la parole de Dieu. Et je sais qu'il y a beaucoup de versions de la Bible aujourd'hui, mais de toutes les façons, la version que je peux recommander toujours, c'est la version Louis II. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres versions modernes, mais ce n'est pas toutes les versions qui respectent la parole, c'est-à-dire ce qui était écrit dans l'original, dans l'hébreu et le grec. Tu sais, aujourd'hui, et j'ai constaté ça quand j'étais encore en Afrique, beaucoup de maisons de traduction publiaient des versions pour simplifier la parole pour les lecteurs, ceux qui lisaient la Bible. Mais en faisant cela, ils changeaient le sens même de la Bible, de la parole. Alors, nous devons faire beaucoup d'attention, surtout de quelle version nous lisons. C'est pourquoi j'utilise toujours cette version Louis II. Mais c'est là que Paul a fait la connaissance de Timothée, et dans Actes chapitre 16, nous voyons, c'est écrit dans le verset 2, que les frères de Lystre et d'Icône rendez de lui un bon témoignage. Alors, c'était évident que le Seigneur a déjà fait son œuvre de grâce dans le cœur de Timothée lorsque Paul l'a rencontré, et le Seigneur a dirigé Paul, comme nous lisons dans le verset 3, de l'amener avec lui. Et c'est écrit, l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Alors, ça pose la question, est-ce que la circoncision était vraiment nécessaire pour le salut? C'est comme d'autres demandent aujourd'hui, mais est-ce que le baptême est nécessaire pour le salut? Mais ce n'est pas pour ça que Paul l'a fait circoncis, c'était afin que ça ne soit pas un scandale, une offense pour d'autres juifs à qui il allait prêcher l'évangile. Tu sais que chaque pays a son culture. Je me souviens bien quand j'étais en Côte d'Ivoire, il y a certaines choses que nous faisons ici aux États-Unis qui peuvent peut-être scandaliser en Afrique. Et je suppose que même en France, il y a certaines cultures aussi qu'il faut respecter. Et je dirais que nous devons faire tout pour ne pas offenser ceux à qui nous prêchons, si ça ne met pas en question l'Évangile. Nous savons que toujours les hommes seront offensés par l'Évangile. Et là, nous ne pouvons pas changer. Il n'y a pas de compromis en ce qui concerne l'Évangile. Mais dans d'autres choses, je me souviens, quand j'étais en Côte d'Ivoire, par exemple, ma femme portait toujours des jupes, comme les femmes font là-bas. Pourtant, ici, aux États-Unis, les femmes portent les pantalons, et ce n'est pas un grand problème. Mais là-bas, je me souviens, bon, peut-être que les choses ont changé, maintenant, depuis que j'étais là-bas, mais je sais qu'à l'époque, il y avait une certaine façon de s'habiller qui était propre à la femme. Alors, ma femme se soumettait à ces règles quand elle était en Côte d'Ivoire ou en Afrique. Mais ici, aux États-Unis, ça n'a pas la même signification. Il faut toujours s'habiller d'une façon modérée, bien sûr, mais... Enfin, chaque culture a ses modes, alors, au principe. Alors, c'est pour ça, dans Acte 16 et le verset 3, Paul a pris l'occasion de faire circoncire Timothée pour ne pas que ça, il soit considéré comme un incirconcis. À l'époque, c'était un terme qui est utilisé de ceux qui n'étaient pas juifs. Alors, Paul ne voulait pas que cela soit un scandale pour eux. Je vais m'arrêter là pour le moment. Est-ce que Koulibaly, Amédée, Aurélien, vous avez quelque chose à ajouter à ce sujet jusque-là? La manière de prêcher l'Évangile... À ceux qui nous entourent, pour ne pas que ça soit une offense, enfin, dans notre manière, je ne dis pas changer l'Évangile, mais notre manière, est-ce que c'est important? Pas d'observation? Oui? Oui. Koulibaly. Alors, j'ai difficulté à te comprendre. Non, c'était coupé là.
Donc, si tu peux reprendre. Oui, bon, d'accord. Merci bien pour cette précision parce que certainement, en prêchant l'évangile aux musulmans, il y a certaines pratiques qui peut-être, tu as appris dans la région, mais quand il s'agit de l'évangile maintenant, il faut laisser ces pratiques et ne plus les suivre, même si c'est une offense pour eux, parce que l'évangile, c'est l'évangile. Alors, je ne sais pas, Aurélien, au Bénin, est-ce qu'il y a certaines cultures qu'il faut peut-être respecter tout en voulant pouvoir prêcher l'évangile? Je ne sais pas s'il est là. C'est pas. Je sais pas, qu'est-ce que tu trouves en France, Amédée? Parce que là, c'est aussi une culture différente. Est-ce qu'il y a, sans changer l'évangile, sans compromettre l'évangile, comment est-ce que tu arrives à témoigner à ceux qui sont en France? Ouais. Ok. Jocelyn? D'accord, je ne sais pas. J'en doute.
Oui, Jocelyn.
Il paraît que la ligne est coupée chez elle. Bon, je vais essayer de la rajouter. Ah, elle est là. Ok.
Allô?
Ouais, ouais.
Allô?
Allô? Tu nous as...
Oui, je suis là.
Ok.
Vous m'entendez?
Ouais, ouais. Ça va mieux maintenant. Ok, on va continuer. Je voudrais revenir sur le point que c'est la parole que Dieu utilise pour convertir les âmes. Et dans 2 Timothée, chapitre 3, Paul a fait mention de cela à Timothée, quand il lui dit dans le verset 14, de Timothée 3 et le verset 14. Parce qu'on a, comme on a lu dans Actes 16, Paul l'a déjà trouvé, étant dans la grâce, Dieu ayant déjà fait son œuvre de grâce dans son cœur, et c'était à travers la parole. de Dieu. Nous ne devons jamais minimiser l'importance de la parole de Dieu. Ce n'est pas la voix de l'homme, c'est ça que je voulais dire. Ce n'est pas ma voix qui convertit, ce n'est pas notre témoignage qui convertit les hommes, mais c'est la parole de Dieu. Et donc, il dit ici à Timothée, 2 Timothée 3, le verset 14, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » Bon, le point que je vois là, c'est que les choses qui concernent la parole de Dieu sont des choses reconnues certaines. Je sais que nous vivons dans une époque où les gens ne croient pas à la parole de Dieu. Surtout ici aux États-Unis, ça devient de plus en plus un combat. Si quelqu'un dit qu'il est chrétien, ou on fait référence à la parole de Dieu en public. Mais néanmoins, ça ne change pas la réalité. La parole est la parole, même si l'homme ne croit pas à la parole. C'est la parole de Dieu. Et Paul dit à Timothée, les choses que tu as apprises et reconnues certaines. La seule manière de reconnaître ces choses certaines, c'est par la grâce de Dieu, c'est par la révélation de Dieu. Et non pas simplement l'enseignement des hommes. Nous pouvons prêcher fidèlement l'évangile aux hommes, mais si Dieu lui-même n'ouvre pas le cœur, leur donne l'entendement spirituel, ils vont rester dans cet état de perdition. Parce que c'est dans cet état que nous sommes nés, dans ce monde. Et c'est là que Paul dit à Timothée, sachant de qui tu les as apprises. Bon, on peut supposer qu'il parle là peut-être de sa mère, etc. Mais de la manière que je lis ça, quand il dit, sachant de qui tu les as apprises, il est en train de parler de Dieu lui-même. Si quelqu'un connaît Christ en vérité, si quelqu'un connaît la parole de Dieu, c'est parce que c'est Dieu lui-même qui lui a révélé cela, et non pas un homme. Peut-être que le Seigneur s'est servi d'un homme. Je prêche l'évangile chaque semaine. Mais si quelqu'un dit, j'ai appris l'évangile de Ken, j'ai des problèmes avec cela. Parce que ce n'est pas Ken qui est la source de l'évangile. Il faut que ça soit du Seigneur Jésus lui-même. Tu as entendu peut-être la voix de Ken, mais c'est Christ a dit qu'il est le bon berger. Et les brebis entendent sa voix et le suivent. Alors, c'est très important de faire cette précision. Nous n'avons l'évangile que nous croyons aujourd'hui, cet évangile de la grâce de Dieu en Jésus-Christ n'est pas de l'homme, mais c'est de Dieu. Néanmoins, Dieu se sert des moyens pour faire communiquer son évangile. Et ici, dans le verset 15 de 2 Timothée 3, il dit « dès ton enfance ». Ce mot « enfance » là, c'est un mot dans l'original qui signifie même un petit bébé. Dès que Timothée était né dans ce monde, sa mère et sa grand-mère commençaient à lui faire entendre l'évangile. Quand tu constates qu'à l'époque, il n'y avait pas d'imprimerie, il n'y avait pas de Bible partout, il fallait un effort pour avoir une copie des Écritures. Souvent, ces copies se trouvaient dans les synagogues. Alors, on peut savoir que ce que sa mère, sa grand-mère aurait pu entendre dans la lecture, dans ces synagogues, dans ces assemblées, où les écritures étaient lues, alors elles ont pris le temps de communiquer ça à Timothée dès son enfance. Et tu vois comment Paul se réfère à la parole. Il dit, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. De la manière qu'il parle de la Bible, c'est, nous avons maintenant dans nos mains cette parole de Dieu qui est décrite ici comme les saintes lettres. C'est parce que cette parole décrit un Dieu saint. Et c'est là la première des choses que lorsque Dieu est en train de nous apprendre qui il est, ses attributs, c'est la première des choses que nous apprenons, qu'il est saint. Et que nous ne sommes que des pécheurs. Alors comment est-ce qu'un Dieu saint peut être réconcilié ou nous pouvons être réconciliés avec lui, un Dieu saint? Ce n'est pas par nos œuvres, nos efforts. Il fallait ce substitut. Il fallait une justice que Dieu lui-même met à notre compte. Et cette justice est celle de Jésus-Christ, qu'il est venu dans la chair, comme un homme, et il a accompli cette justice devant son Père, de telle façon que le Père maintenant est satisfait avec cette justice, et alors en lui, tous ceux que Christ représente sont aussi maintenant justifiés. Le mot justifié veut dire acquitté de toute charge contre nous. Alors c'est la seule manière que nous pouvons être justifiés devant Dieu. Ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est par Jésus-Christ. Et c'est de ça que Paul dit à Timothée dans 2 Timothée 3 et le verset 15, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui lisent la Bible, mais qui ne sont pas sages à salut par la foi en Jésus-Christ. Ils voient autre chose. On peut lire cette Bible comme tout autre et arriver à croire que c'est par les œuvres que nous sommes sauvés. C'est pourquoi beaucoup de dénominations qui lisent cette Bible ont des pratiques qui encouragent des gens à œuvrer. Je crois que Jocelyne, le frère Amédée m'a dit que tu étais auparavant dans une mission, œuvre et mission. C'est intéressant que le titre contient leur déclaration de foi, c'est œuvre.
Oui,
les œuvres.
Ouais.
Oui, oui.
C'était le moyen de montrer à Dieu qu'on était fidèle ou on avait le salut.
Oui, oui. Et c'est pareil dans beaucoup de dénominations. Mais ce n'est pas l'évangile. Ici, il dit qu'ils peuvent te rendre sage. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? C'est Dieu lui-même. C'est lui qui a choisi ceux qu'il veut comme enfant, et cela depuis l'éternité, et c'est pour eux qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ dans le monde, et c'est à eux que maintenant il donne son esprit pour être sage, pour connaître, avoir cette connaissance du salut, le salut de Dieu. Et c'est écrit, c'est par la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas la foi qui sauve, mais la foi, c'est le moyen que Dieu donne de recevoir ce salut, de connaître ce salut. Il ouvre les yeux, il ouvre les oreilles spirituelles, il donne cette compréhension pour que ceux qu'il a choisis embrassent le Seigneur et viennent au Seigneur dans la foi. Alors, verset 16 confirme ce point, que c'est l'Écriture. Il dit « toute Écriture ». Et il faut savoir que quand la Bible parle de l'Écriture, surtout ici en écrivant, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Donc, quand il dit « toute Écriture », il parle là de l'Ancien Testament. Et ça, c'est aussi un point que beaucoup ignorent aujourd'hui dans la religion, parce que ils ont la Bible, ils lisent l'Ancien Testament, ils disent, bon, ben, ça, c'est les choses pratiques que nous devons suivre, mais l'Évangile, on trouve ça seulement dans le Nouveau Testament. Et c'est là que je dis non. Depuis Genèse jusqu'à Malachie, toute Écriture est inspirée de Dieu, et cette Écriture n'a qu'un seul sujet, et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Cette parole que nous avons ici dans nos mains, c'est une autobiographie de Christ. Bien sûr, il y a l'histoire d'Israël, bien sûr, il y a la loi, il y a la culture, il y a beaucoup de choses qui sont décrites dans l'Ancien Testament, mais le sujet est toujours le Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 5 et le verset 39, c'est ce que Christ a dit aux pharisiens de son jour, et ces pharisiens étaient des hommes religieux. C'était les gardiens de la parole à l'époque. Et il le disait dans Jean 5, 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Donc, dans un seul verset, il nous donne la clé de toute la Bible, de tout ce qui est écrit. Et c'est simplement ceci. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup qui lisent la Bible, qui l'étudient, qui pensent avoir en elle la vie éternelle. Combien de gens est-ce que vous connaissez qui ont mémorisé des passages de la Bible et qui peuvent citer ça sans regarder la Bible? Mais ils ignorent le sujet principal qui est Christ. Ils sont fiers de leur connaissance de la Bible, pensant avoir en elle la vie éternelle, mais ils disent, ce sont elles qui parlent de moi. Alors, ici dans 2 Timothée, chapitre 3, c'est de cela que Paul parle ou écrit à Timothée, toute Écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, et voici le point clé, pour instruire dans la justice. La Bible ne nous donne pas des règles pour fournir à Dieu une obéissance personnelle. Ça, ce n'est pas le but de la Bible. Pourtant, c'est comme ça que beaucoup prêchent. Aujourd'hui, on va parler de la manière de témoigner. La semaine prochaine, on va parler de la manière qu'on doit marcher devant Dieu. Tout est centré sur l'homme. Mais ici, Paul donne à Timothée la somme de toute Écriture. C'est pour enseigner, dans le sens de instruire dans la justice. Quelle justice? La justice de Dieu. Cette justice que Dieu lui-même exige pour qu'un pécheur soit réconcilié avec lui. Nous savons que sa justice n'a pas de degré. Soit tu es juste ou tu n'es pas juste. Même un seul péché suffit de rompre cette relation avec Dieu, et cela est déjà passé. Alors, la seule manière de prêcher cette parole que nous avons, c'est de prêcher la justice de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'être enseignés. Parce que ça, ce n'est pas dans le cœur de l'homme. Ça, ce n'est pas dans le cœur de nos auditeurs. L'homme, naturellement, pense qu'il doit faire quelque chose pour satisfaire à Dieu. Mais l'Écriture, qui est inspirée de Dieu, enseigne que, non, cette justice, c'est Dieu seul qui peut l'accomplir, et cela par son Fils, Jésus-Christ. Alors, l'enseigner, convaincre, nous savons que l'homme n'est pas croyant par nature. Et c'est pourquoi, quand on se lève pour aller dans ces milieux, où même la parole est lue ou prêchée, il y a toujours une opposition quand on dit que la justice de l'homme n'est que comme des vêtements sales et que seule la justice de Christ peut sauver. Alors, les hommes et nous-mêmes, on a besoin d'être convaincus par l'Esprit. Le même Esprit qui a inspiré cette Écriture, c'est l'Esprit qui convainc le cœur de cette vérité pour corriger et pour instruire dans cette justice. Il n'y a qu'un seul message dans toute la Bible, et c'est ça. Comment est-ce que Dieu peut être juste et justifier les pécheurs? Et si quelqu'un n'a pas encore connu, compris ce message, c'est parce qu'il est toujours dans l'ignorance. Dieu ne lui a pas encore enseigné. Mais nous ne devons pas changer de méthode pour essayer de convaincre des hommes. Le seul instrument que Dieu utilise pour convaincre les cœurs, c'est sa parole, comme il dit ici à Timothée. Alors, tout cela s'est compris dans cette introduction de Paul à Timothée, que nous sommes en train d'étudier, quand il dit dans les deux premiers versets, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance, à Timothée. Quand il dit à mon enfant légitime, en la foi, il explique cela. Paul n'avait pas d'enfant lui-même, mais c'était un véritable enfant de Dieu par la grâce de Dieu et dans cette foi que Dieu donne. La foi, c'est le don de Dieu. Ça ne vient pas de l'homme, c'est le don de Dieu. Et c'est pour ça que Paul se réjouit tout en écrivant à Timothée. Nous ne devons jamais être découragé quand les hommes ne veulent pas entendre cet évangile, parce que nous savons que ce n'est pas dans le cœur de l'homme de recevoir cet évangile, mais c'est par la grâce de Dieu. C'est quand Dieu lui-même est daigne révéler cette parole que nous pouvons la comprendre. Alors, ici, revenant dans 1 Timothée, chapitre 1, tu vois de la manière que Paul parle de Jésus-Christ. Et je dirais ici, c'est par les paroles des gens qu'on peut vraiment sonder le cœur, voir ce qui est dans leur cœur. Il y a une manière de parler de Jésus aujourd'hui qui est, je dirais, trop familière. On parle de Jésus comme si c'était un copain. Mais on ne voit pas ce langage dans la Bible. Ici, tu vois, c'est toujours avec respect, c'est en donnant à Jésus-Christ toute la gloire, quand il parle même de Jésus-Christ. Tu sais, le nom Jésus, c'est son nom qui lui a été donné dès son enfance, sa naissance. Si tu vois dans Matthieu chapitre 1, Et là encore, les gens prononcent le nom Jésus, par-ci, par-là, sans savoir, sans connaître le vrai sens du nom. Et dans Matthieu chapitre 1 et le verset 21, je dirais, tout l'évangile est proclamé dans ce nom, parce que c'est écrit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et voici la signification de son nom. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Bon, le Jésus qui est prêché aujourd'hui dans les milieux n'est pas ce Jésus-là, c'est un autre Jésus. Il prêche un Jésus qui veut sauver. Mais ici, c'est écrit, il sauvera. Ce que Christ est venu faire, il a réussi dans sa mission. Il n'y avait pas d'échec. Il n'y a pas de pécheur à l'enfer pour qui Christ est mort. Aucun pécheur n'est à l'enfer pour qui Christ est mort. Si un pécheur est en enfer, c'est parce que Dieu, dans sa justice, a déterminé que ce pécheur ou ces pécheurs soient condamnés, justement, pour leur péché. Mais si il y en a qui sont sauvés, ça c'est uniquement par la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi le nom Jésus signifie celui qui sauvera. Tu vois, on a vu tout à l'heure, Paul en écrivant à Timothée que ces choses... Il appelait ça des choses certaines qui sont écrites dans la parole de Dieu. Ça, c'est une de ces choses certaines. Ce qui est certain, c'est que Jésus est venu et qu'il sauvera son peuple. Mais voici la clé, c'est pas tout le monde. Son peuple de ses péchés. C'est un peuple que Dieu lui-même a choisi depuis l'éternité. Et depuis l'éternité a donné à son fils, et pour qui son fils est venu dans ce monde, payer la rançon. Ça demandait une rançon, et cette rançon était de son sang. Et on dit le sang versé, mais c'est Dieu lui-même qui a mis son fils à la croix pour accomplir ce salut que le Père a ordonné depuis l'éternité. Donc, c'était la croix même, c'était un accomplissement de la part de Dieu. Ce n'était pas un échec. Il y en a qui voient la croix de Christ un peu comme avec émotion. Oh, pauvre de Christ, si les hommes avaient simplement cru en lui, ils n'auraient pas dû mourir de cette manière. Alors, ils font de Christ un victime, mais Christ, il n'était pas un victime, il était le sacrifice, il était l'agneau que Dieu lui-même a mis à la croix, afin que Dieu lui-même soit juste, parce que sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de justice accomplie. Alors tout cela, c'est dans ce nom-là que Christ est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et il aura, lui-même il a dit ça, il n'y a aucun qui va perdre de ce que le Père lui a donné. Et ça dit que son sang est effectif pour le salut de son peuple. Mais en revenant ici dans 1 Timothée chapitre 1 et le verset 1 encore, il y a une autre description de Christ là, où il dit Jésus-Christ notre espérance. Notre espérance. Il y en a qui ont une soi-disant espérance pour le salut. Quand on le demande, comment est-ce que tu crois que tu es enfant de Dieu? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Bon, mais quand j'étais à l'église, un jour, on a lancé l'appel à ceux qui voulaient accepter Jésus comme leur sauveur, et je me suis avancé pour et le pasteur ou bien tel évangéliste a prié pour moi, même Doc parle d'imposer les mains. Tout ce qu'il parle, c'est des moyens, des méthodes de l'homme. Et leur espérance est dans ces enseignements-là, ou bien dans ces pasteurs-là, dans tout ce que les hommes leur ont dit. Mais ici, Paul dit à Timothée, de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. Il n'y a pas de véritable espérance en dehors de Jésus-Christ pour le salut. Quand c'est écrit notre espérance, cela veut dire que c'est lui qui est l'auteur de cette espérance pour le salut et la vie éternelle. C'est sa justice qui est cette espérance, c'est son sacrifice qui donne cette espérance et qui est cette fondation. Toute maison a besoin d'une véritable fondation. Et c'est ça qui est la fondation. Christ lui-même. Tu vois la manière que c'est écrit? Christ lui-même. Notre espérance. Beaucoup ont une espérance dans leurs décisions. Ils ont une espérance dans ce qu'ils font. Dans leurs œuvres. Ils espèrent à ces choses, pensant que, en fin de compte, Dieu sera content de ce qu'ils font. Mais Dieu ne peut pas agréer aucune œuvre de l'homme, parce que c'est sali du péché. Mais l'œuvre de Christ est parfaite. Et c'est ça que Paul parle comme étant son espérance. Si tu regardes dans l'épître de Paul, aux Galates. Galates chapitre 2. Et le verset 21, c'est un verset clé pour moi à ce sujet. Qu'est-ce que ça signifie de dire que Christ notre espérance? Bon, Paul dit ici, Galates 2, verset 21, « Je ne rejette pas la grâce de Dieu. » Et voici la phrase clé. « Car si la justice s'obtient par la loi, et là on peut dire par mon obéissance à la loi quelconque, Christ est donc mort en vain. » Ceux qui prêchent les œuvres sont effectivement en train de dire que Christ est mort en vain. Ils sont en train, effectivement, de dire que, en effet, Christ n'aurait pas dû venir et mourir parce que j'ai la capacité d'accomplir ses œuvres moi-même. Tu vois la folie. Pour eux, Christ n'est pas leur espérance. Ils montrent par leurs paroles, ils démontrent qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Pas encore. Peut-être qu'ils sont enfants de Dieu en ce que Christ a déjà payé leurs dettes et Dieu les a déjà élus depuis l'éternité, mais l'Esprit n'a pas encore révélé Christ en eux. On ne peut pas juger les hommes de cette manière. Aussi longtemps que quelqu'un est encore en vie, on peut espérer que peut-être ils sont un enfant de Dieu égaré et que le Seigneur dans son temps va les emmener. Mais s'ils sont vraiment enfants de Dieu, Dieu les amènera par son esprit. Et par là, ils vont venir à Christ comme leur espérance. Il y a un verset dans 1 Corinthiens chapitre 1 et le verset 30 que le Seigneur a utilisé dans ma vie pour révéler Christ en moi, et je trouve toujours ce verset précieux. 1 Corinthiens chapitre 1, et ça explique ce que Paul est en train de dire à Timothée ici: Jésus-Christ notre espérance. C'est écrit: or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, Alors, quand je rencontre quelqu'un qui me dit qu'il est en Jésus-Christ, quelle est la première question que je vais demander? C'est de savoir comment est-ce que vous êtes en lui. S'il ne peut pas dire que c'est par Dieu seul, donc c'est certain qu'il n'est pas en Christ. Parce que Paul dit, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Et puis, voici l'explication. Lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Tu vois, tout le salut est décrit dans ces mots. C'est par Dieu qui a été fait pour nous sagesse. Comment est-ce qu'on peut connaître Dieu? Comment est-ce qu'on peut connaître le Seigneur Jésus-Christ? C'est par révélation. Tu vois? C'est Dieu prenant cette parole qu'il a inspirée et il la révèle dans notre cœur. Si nous sommes en train d'adorer Dieu en vérité aujourd'hui par le Seigneur Jésus-Christ, c'est par ce moyen-là, seul. Et deuxièmement, il dit, a fait pour nous sagesse et justice. L'homme n'a aucune justice devant Dieu. C'est, en effet, la justice de Dieu est contre lui et condamne tout pécheur. Donc, ici, c'est écrit qui a été fait pour nous justice. Tu vois, ça, c'est la substitution. Parce que c'est Christ qui est venu pour accomplir cette justice à l'égard de ceux que le Père lui a donné. C'est pas tout le monde. En effet, si Christ est mort pour tous les hommes du monde entier, donc il n'y a aucun jugement qui reste. Mais nous savons qu'il y en a ceux que Dieu va juger. C'est parce qu'ils n'ont pas cette justice devant Dieu. Mais quelle grâce pour nous que Christ a été fait pour nous. Right? Ça, c'est le sens. Justice. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est une œuvre accomplie par Christ. C'est pourquoi nous nous reposons en lui. Mais troisièmement, tu vois, et sanctification. Ce mot sanctification est mal compris aujourd'hui dans des milieux soi-disant chrétiens, parce qu'on dit oui, Christ a accompli la justice, mais c'est à nous maintenant de nous sanctifier. Mais la Bible dit, comme c'est écrit ici, il a été fait pour nous sanctification. Cela veut dire Christ lui-même s'est mis à part pour accomplir tout ce qui est nécessaire pour le salut. Et c'est cette sanctification accomplie par Christ qui devient la nôtre. Dans son épître, dans Jean chapitre 17, Christ parlant de son œuvre pour les pécheurs, ça, c'est sa prière à son père avant d'aller à la croix. Tu vois, il dit dans le verset 9 d'abord, parce qu'il y en a qui disent, ben, Christ est venu pour tous les hommes, non? Dans sa prière, Jean 17, 9, il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Ceux qui disent on doit prier pour tout le monde, ils prient contre la volonté de Dieu. Même Christ lui-même n'a pas prié pour le monde. Il dit, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tu vois? Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Alors, quand on continue de lire, Christ parle là d'être, de se sanctifier lui-même, dans le verset 19, tu vois? Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité, par cette vérité. Alors, quand Paul dit ici, dans 1 Corinthiens 2, et le verset 30, lequel de par Dieu a été fait pour nous sanctification. Je ne suis pas en train d'œuvrer moi-même maintenant de me sanctifier devant Dieu. Non, ma sanctification, être mise à part à la sainteté, est une œuvre accomplie déjà par le Seigneur Jésus-Christ. Il est toute mon espérance. Ça, c'est le sens. Jésus-Christ, notre espérance. Et puis, en fin de compte, rédemption. Et rédemption. Cela veut dire que, bien sûr, Christ nous a rachetés déjà à la croix, mais nous attendons dans ce corps, nous qui sommes les enfants rachetés de Dieu, nous attendons dans ce corps toujours notre rédemption finale, où nous serons ressuscités, ce corps, le Seigneur va changer et nous serons glorifiés et en fin de compte, n'aurons plus affaire avec un cœur de péché, un corps de péché, une chair de péché. Je ne peux pas imaginer comment cela doit être, parce que, mais c'est Christ mon espérance. Je sais que c'est certain, parce que la Bible dit. Mais jusque-là, je ne suis qu'un pécheur, je vis dans un corps de péché, je lutte dans mon esprit avec le péché tous les jours. Et parfois, je me demande comment est-ce que Dieu peut m'aimer tant que je suis pécheur. Mais ce n'est pas moi, c'est son Fils qui l'aime. Et c'est son Fils qui a été fait pour moi, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Et comme le verset 31 dit, « Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Alors, si quelqu'un ne témoigne pas de Christ de cette manière, on ne peut pas dire que Christ est son espérance. On ne peut pas dire que Christ est mon espérance et puis en même temps, je suis en train d'œuvrer moi-même pour essayer d'assurer ma place auprès de Dieu. Donc, soit que Christ est notre espérance ou il n'est pas. Mais pour ceux qui sont appelés de Dieu, que Christ a racheté, et c'est ceux qui l'appellent, ceux qui l'ont racheté, et que le Père a choisi, ceux-là sont véritablement des enfants de Dieu. Il y a une autre description de Christ que nous voyons dans ces deux premiers versets, et avec cela je vais m'arrêter, mais dans 1 Timothée, chapitre 1 et le verset 2, tu vois, nous avons vu le titre Jésus-Christ. Christ veut dire le oint, oint de Dieu. C'est celui que Dieu a oint pour être le sauveur et le substitut de son peuple. Et puis, deuxièmement, Jésus-Christ, notre espérance, dans le premier verset, et puis dans le deuxième verset, tu vois à la fin là, de Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà encore un terme que les gens utilisent sans savoir de quoi ils parlent. Tu entends les gens dire, oh Seigneur Jésus, mais ils ne croient pas en lui comme Seigneur. Parce que le mot Seigneur veut dire souverain, veut dire il fait ce qu'il veut. Et beaucoup ont aujourd'hui une vue de Christ comme si il est un petit Dieu qu'on peut manipuler, qu'on doit encourager, qu'on doit aider. C'est pourquoi on entend dire par des gens, oh, on doit beaucoup prier pour que Dieu agisse et pour que ceci ou cela. Ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus, celui que même dans l'Ancien Testament, comme je disais tout à l'heure, Quand la Bible parle de l'Écriture, c'était l'Ancien Testament. Et dans Psaume, chapitre 2, voici dans l'Ancien Testament une prophétie concernant l'opposition des hommes au sujet de Christ, mais en même temps, une déclaration de sa souveraineté. Ça, c'est un Jésus que le monde aujourd'hui qui s'appellent chrétiens ne connaissent pas. Ils ont un Jésus, mais ce n'est pas le Jésus de la Bible. Tu vois dans Psaume 2 et le verset 1, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux, notez bien, contre l'Éternel et contre son oint? Ce mot « oint », c'est le mot « Christ ». Tu vois? Et c'est ce même passage qui est cité dans le livre des Actes, des Apôtres, au sujet de ceux qui, comme Hérode, comme Pilate, les Juifs, qui se sont soulevés contre Christ pour le faire crucifier. Pour eux, ils ont accompli leur volonté, en faisant ce qu'ils ont fait, mais en faisant cela, ils ont accompli la volonté de Dieu. Ils ont dit, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Mais tu vois, le verset 4 dit tout. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Tu sais, les hommes peuvent se soulever contre Dieu dans leur rébellion, mais ça ne change pas Dieu. Je trouve que le Dieu qui est prêché dans beaucoup de milieux, c'est un Dieu frustré. Il n'est pas assis. Il est toujours en train... Les gens utilisent les termes humains, ils disent... Dieu essaye, Dieu est en train d'essayer de faire ceci ou cela. Dieu n'a jamais essayé quoi que ce soit. Tout ce qu'il ordonne, il accomplit. Même au départ, dans la création, il a simplement dit et la chose fut. Ça, c'est ce que la Bible dit. Ici, c'est écrit, celui qui siège. Cela veut dire qu'il ne bouge pas. Il siège dans... les cieux, et il se moque d'eux. Et puis, il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Et voici ce qu'il dit, verset 6, « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Tu sais, des gens qui prêchent aujourd'hui au nom de Jésus, ils sont en train de courir par-ci, par-là, comme si c'était une élection et on a besoin de voter pour que Christ soit Seigneur. Non, il est déjà le Seigneur. Comme c'est écrit ici, Dieu a déjà dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Et puis, verset 7, « Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Tout ce que Dieu, que Christ demande à son Père, il reçoit. Alors, c'est pourquoi dans Jean 17, c'est écrit, « Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. » C'est dans ce sens qu'il est Seigneur, qu'il aura, il règne maintenant. Beaucoup prêchent qu'il y a un royaume à venir. Non, il y a un royaume déjà qui est venu en Christ. Et ceux pour qui il a payé la dette, il est en train de les amener à lui-même. Et lorsque le dernier est amené par son esprit, c'est là qu'il reviendra pour que tout soit auprès de lui pour l'éternité. Mais en attendant, il est en train d'accomplir son œuvre. Alors, il est le Christ, il est l'espérance de son peuple, et il est le Seigneur. Voici le Jésus que nous voyons dans les Écritures, mais si nous le voyons ainsi, c'est uniquement par la grâce de Dieu, et c'est selon le plan de Dieu, son dessein. Et si nous avons cette foi, nous devons remettre toute la gloire à Dieu seul. À Dieu seul la gloire. Non pas à nous, mais à Dieu seul, cette gloire. Alors je vais m'arrêter là et voir si quelqu'un a quelque chose à ajouter selon ce que le Seigneur lui a donné, quelques pensées là-dessus. Le frère Aurélien, on n'a pas entendu parler de toi, ou bien comment est-ce que tu vois ces choses? Ou bien le frère Koulibaly?
Comme les musulmans le font, si vous le faites pour Christ, c'était très bien. Bon, en réalité, bon, si le pécheur est sauvé, c'est purement par grâce. Si je vois par exemple mon cas, je suis le seul chrétien dans ma famille. Et puis dans les clans passés, ma famille n'a jamais eu de chrétien. Mais la manière dont Dieu s'est servi de moi pour être chrétien, c'est là que je vois que réellement le salut réellement n'est pas un acte mérité par l'homme.
Ouais.
Et voilà pourquoi je m'opposais à certains de mes frères qui n'acceptaient pas Jésus-Christ. Mais par la suite, j'ai compris. Quand mon propre fils même a abandonné le christianisme, a abandonné Jésus pour être musulman, et j'ai vu que réellement, c'est selon le plan de Dieu. Bien vrai que je ne suis pas désespéré, je prie toujours.
Amen.
Alors, c'est pour dire que réellement, le salut, c'est
vous bénir. Oui. Et effectivement, c'est par là, Christ est toujours l'espérance de ceux qu'il a rachetés, même si notre propre famille ne croit pas autour de nous. J'ai le même cas avec mes enfants. J'ai 3 enfants. Et ces enfants-là ont grandi sous l'écoute de l'Évangile. Mais jusqu'à aujourd'hui, aucun n'est croyant. Et pourquoi? Parce que Dieu n'a pas encore révélé en eux ce Christ qu'il a révélé en moi. Et c'est possible qu'il ne le fera jamais. S'ils ne sont pas à lui, s'il ne les a pas achetés, rachetés, choisis, donc, ils vont mourir comme ils sont nés dans ce monde, des pécheurs perdus. Et dans cela, nous abaissons et nous donnons toujours la gloire à Dieu, quelle que soit sa volonté. Parce que nous savons que le salut n'est pas mérité, mais c'est un don de Dieu. Et c'est lui qui détermine ceux qu'il va sauver. C'est ça qui est l'offense pour beaucoup, parce qu'ils veulent eux-mêmes le choix. Mais si Dieu laisse à l'homme le choix, l'homme ne fera qu'un seul choix, et ça serait de se rebeller davantage contre Dieu. Tel est le choix de l'homme. Telle est la rébellion qui est dans son cœur. Ça prend la grâce de Dieu de nous emmener à Christ. Alors merci frère pour ce témoignage.
Et c'est surtout, j'ai remarqué sur plus de 10 pasteurs, partout où j'ai passé sur plus de 10 pasteurs, tu vas trouver au moins 4 ou bien 5 qui vont dire qu'ils ont des enfants ratés. Les enfants deviennent des débrasés. Et c'est ça qui est vraiment frustrant parce que les gens voient ça. C'est pour cela vraiment l'éducation chrétienne a quelque chose, mais ce n'est pas l'essentiel, c'est Dieu qui choisit. Merci.
Amen. Amen. Ok. Alors, je dois devoir m'arrêter ici parce que dans quelques minutes, je dois rejoindre les frères au Malawi. Je fais 2 séances chaque samedi matin, celle-ci Et puis, ça c'est en français. Et puis, d'ici quelques minutes, ça, je prêcherai en anglais. Il y a une assemblée au Malawi que le Seigneur a suscité, et il y a un pasteur là-bas qui s'appelle le pasteur James Mwale, et à travers lui, le Seigneur est en train de faire propager l'évangile au Malawi, donc mon temps un peu limité ici. Mais Dieu voulant, on va nous rejoindre encore le samedi prochain, à la même heure, et je prie toujours que le Seigneur bénisse ces occasions pour l'encouragement de chacun qui lui appartient. À vous maintenant de... Enfin, vous avez la parole, comme Paul a dit à Timothée, cette écriture, que le Seigneur vous donne le courage et la force de l'annoncer là où vous êtes, parce que c'est la seule parole qui sauve. Je vais terminer par la prière et demander le Seigneur de nous bénir en ce que nous avons entendu. Donc je vais prier. Seigneur, nous te remercions pour ce temps que tu nous as donné pour nous rassembler, même par ce moyen de technologie, éloigné en distance, mais chacun auprès du trône de la grâce, où est assis le Seigneur Jésus-Christ, celui dont nous venons d'entendre parler et de lire dans ta parole. Et je prie, Seigneur, que tu daignes attirer nos cœurs toujours vers lui, et non pas nous laisser à nos propres pensées, aux pensées de nos cœurs, parce que si tel est le cas, nous allons certainement nous éloigner. Nous avons besoin de ton esprit, de nous diriger et de nous donner la force et le courage, la grâce de toujours regarder vers ton Fils, le Seigneur Jésus, notre espérance. Et je prie pour le frère Koulibaly dans son milieu, surtout un milieu musulman où il y a beaucoup d'opposition. Mais en réalité, ce n'est pas différent que n'importe quel milieu, que ce soit ici aux États-Unis, en France, au Bénin, ailleurs en Afrique ou bien en Asie, partout dans le monde, où les hommes naturels sont encore dans l'aveuglement. Ils sont endurcis par leur péché du cœur, et partout ça demande, ça exige la même chose, que par ta grâce tu interviennes, tu ouvres les yeux et tu donnes à ceux que tu as rachetés par ton Fils ton esprit, afin qu'ils soient emmenés à Christ. Alors fais de nous des témoignages fidèles à son nom partout où nous allons. Et Seigneur, avant tout, que notre espérance soit uniquement en ton Fils et dans ce sang qui a été effusé pour les pécheurs tels que nous sommes. Alors nous te rendons grâce et nous prions que tu nous donnes davantage ces occasions pour le nom et la gloire de ton Fils. Amen.
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 Bien, alors, le temps passe vite, mais restons en contact. Si vous avez des gens qui veulent peut-être se réunir avec vous et poursuivre les mêmes enseignements la semaine prochaine, bon, il faut inviter les amis. C'est un moyen aussi pour eux de pouvoir écouter avec nous. Et cette méthode que nous suivons, c'est simplement de prendre la parole et aller verset par verset à travers ces épîtres aussi longtemps que le Seigneur nous donne ces occasions. Et toujours le but, c'est la gloire de Christ seul. Et c'est bien, Je suis très content de pouvoir rentrer en contact avec, avec vous. Et je crois que le Seigneur va continuer à bénir. Alors, salutations à tous. Frère Koulibaly, restons en contact. Et Jocelyne, c'est bien que tu sois avec nous.
Oui.
Et,
oui.
Salutations.
Je suis ici même, d'ailleurs.
C'est bien, c'est bien. Et Aurélien, salutations à toi et ta femme.
Ah oui. Merci. Merci et bien des choses à chacun de vous là-bas.
C'est très bien.
Merci.
Alors, Dieu voulant, à la semaine prochaine, à la même heure.
À la semaine prochaine. Oui. Merci, pasteur.
D'accord.
Il y a un problème de communication, mais ça ira.
Ok, d'accord.
Samedi prochain.
Très bien, très bien.